Calade.
100.9.
En mode perma. Votre émission mensuelle consacrée à la permaculture.
En mode perma, ce sont des sujets de saison. Que faire dans son jardin en ce moment? Des petites astuces et de grands concepts. Des balades commentées en forêt, en direct sur Radio Calade. Des invités d'ici et d'ailleurs pour comprendre le monde du vivant. Des bouquins pour s'inspirer de tout et rêver. Et le tout connecté via les réseaux sociaux. Bonjour, moi je suis Benjamin. On va parler de la forêt, on va parler du compost, ou pas. On va parler de votre jardin et de bien plus encore. Vous pourrez me poser vos questions sur Instagram, benjamin.jaïr, pour que je puisse y répondre pendant l'émission, ou même appeler l'émission. Alors moi, je vais me présenter donc pour cette première émission en mode perma, qui, comme vous l'avez compris, va vous parler de permaculture. Je suis né à Villefranche dans les années 70. Je me suis engagé dans de nombreuses associations depuis mon plus jeune âge. Et puis, c'est vers l'Afrique de l'Ouest que je me suis émancipé en 1998. Alors, sac à dos, carnet de notes et puis surtout curiosité en mode action. Les yeux ouverts au quotidien, les oreilles tout ouïes. J'y ai découvert plein de choses, l'injustice, les inégalités, l'autosuffisance alimentaire qui m'ont poussé à agir, qui poussent les gens à agir, à se nourrir. Et j'ai fait énormément de rencontres. La nature et le vivant en ligne de mire. Je vais me former petit à petit à l'agroécologie, puis découvrir la permaculture. Alors, pendant tout ce temps, j'ai rencontré en France notamment Pierre Rabhi, que beaucoup connaissent. José Bové aussi, qui a beaucoup fait parler de lui pendant le début des années 2000, avec lequel moi j'ai pu échanger régulièrement puisque j'ai vécu en Ardèche. Et nous avons pu participer ensemble à de grands rassemblements altermondialistes. Du coup, en France comme au Sénégal, je me suis penché sur des questions de société autour de l'écologie avec un grand E. Et aujourd'hui, après toutes ces années de rencontres, de voyages, je suis facilitateur en permaculture et je vous guide dans mon monde, dans le monde du vivant, de la nature, celui du respect de la terre, de l'humain et du partage des ressources. J'ai rencontré Jérémy Rizou, la source dorée vers l'Arbrel, donc rien de plus local par rapport à chez nous à Villefranche, qui m'a formé à la permaculture. Et Jérémy, c'était un jeune que j'accompagnais quand j'étais conseiller en mission locale. Et donc, du coup, on s'est retrouvés autour de la nature. Et Jérémy est parti en Guinée pour travailler et je l'ai ensuite embauché avec l'association Permacabadio, dont je vous parlerai tout à l'heure et que certains connaissent. Je l'ai embauché pour organiser, à la demande de deux jeunes Sénégalais, des stages de permaculture internationale au Sénégal. Le premier stage a eu lieu en janvier 2017. Et nous avons accueilli du monde d'un peu partout, de Belgique, d'Italie et même du Gabon. Ces formations-là, j'ai pu les faire tout au long donc, de ces dernières années. Et notamment cette année, en juin, j'ai pu obtenir mon diplôme, mon certificat de cours et de conception en permaculture qui m'a été délivré par les alvéoles dans la Drôme. J'accompagne donc différents projets aujourd'hui dans les écoles, dans les jardins partagés, les habitats partagés et différentes communes comme Rivolet à deux pas de Villefranche. Vous savez tout sur moi. Qu'est-ce que la permaculture aujourd'hui? Alors, je vous ai préparé pour commencer cette émission une présentation un petit peu théorique qu'on pourra reprendre tout au long des émissions, puisque je vous rappelle que toute cette année, je pourrais, chaque fin du mois, le dernier mardi de chaque mois à 20h, eh bien, m'entretenir avec vous autour d'un sujet qui concerne la permaculture, votre jardin, la nature, les environs. Donc, pour cela, la bonne base, déjà, c'est de savoir de quoi on parle. La permaculture, c'est une approche de conception durable qui vise à créer des systèmes, des écosystèmes harmonieux et qui s'inspirent de la nature. La permaculture repose sur trois principes fondamentaux. Je les ai donnés tout à l'heure un petit peu en introduction. Prendre soin de la terre, prendre soin des humains, des gens, et partager équitablement les ressources. Je développerai tout ça en vous parlant plus loin aussi des éthiques et des principes de la permaculture. En permaculture, on cherche à minimiser le gaspillage, cultiver des aliments de manière écologique et favoriser la biodiversité. On cherche à créer des espaces. Alors, résilient, c'est un mot vraiment aujourd'hui qu'on emploie beaucoup, même en politique. Résilient face aux changements environnementaux. C'est-à-dire qu'un système tel que la forêt est un système, un écosystème résilient, puisqu'il est capable finalement de se soigner lui-même, de créer son alimentation, d'utiliser cette alimentation pour grandir et finalement de créer des déchets qui vont lui permettre de recréer une alimentation. Pour moi, la permaculture, et c'est ce qu'on a défendu l'autre jour lors d'un forum organisé par différentes associations à l'Oasis à Glézé, pour moi, la permaculture, c'est une philosophie de vie qui peut être appliquée à votre jardin, chez vous, à votre ferme, parce que de plus en plus d'agriculteurs se mettent, entre guillemets, à penser permaculture pour leur lieu de travail, leur lieu de vie et un lieu de production. Votre communauté, de plus en plus de gens nous sollicitent ou me sollicitent parce qu'ils habitent, on habite à grouper, on habite à partager. Et que la permaculture, on a vu que c'était aussi prendre soin de la terre, mais prendre soin des humains. Et prendre soin des humains, c'est prendre soin d'un collectif. Et on sait très bien qu'il y a ce putain de facteur humain, entre guillemets, qui bien souvent vient semer un peu la zizanie dans les collectifs. Alors du coup, la philosophie de la permaculture, c'est ça aussi, c'est de s'appliquer à la communauté, à sa communauté, pourquoi pas à sa famille éventuellement, et donc, voire même à un mode de vie tout entier finalement, vivre de manière permacole. La permaculture, ça nous rappelle que nous faisons partie intégrante de la nature et que nous pouvons vivre en harmonie avec elle tout en satisfaisant nos besoins. Je vous lirai tout à l'heure l'extrait d'un bouquin que je vous ai choisi qui s'appelle « Écolieux vers un nouveau modèle de vie » et ça illustrera un petit peu ce propos. La permaculture, c'est aussi une approche qui peut contribuer à créer un avenir plus durable pour tous et maintenant, c'est peut-être ça qui est important, c'est peut-être ça l'enjeu auquel on est le plus confronté dans notre société d'aujourd'hui, c'est ce maintenant, parce que demain, ça sera peut-être trop tard pour agir de manière un petit peu plus durable et écologique. Toujours pour parler de manière un petit peu théorique de la permaculture, on se rend compte que c'est une approche de la vie et de l'agriculture axée sur du coup la durabilité, la résilience et le respect de la nature. On va créer donc des systèmes harmonieux qui imitent les modèles observés dans la nature pour produire de la nourriture, de l'énergie et des ressources tout en préservant notre environnement, l'environnement. Je vous parlerai tout à l'heure d'un projet de balade en forêt commenté, des balades où on pourra emmener la radio avec nous. C'est en observant cet écosystème de la forêt, qui est un des plus vieux écosystèmes que l'on côtoie encore sur notre planète, que l'on arrive à faire de la permaculture. C'est vraiment en observant cet écosystème, son sol, la manière dont il a de se densifier, de se reproduire, que l'on va le plus comprendre, le mieux comprendre ce qu'on peut reproduire et faire dans notre jardin, tout simplement. Y a souvent, on nous pose souvent la question de quel est le parallèle entre la permaculture et l'agriculture dite conventionnelle. Contrairement à l'agriculture, à cette agriculture conventionnelle, la permaculture, elle favorise déjà la diversité des plantes et des animaux, puisque aux antipodes de la permaculture, il y a la monoculture. Donc ça, on le voit de plus en plus. On le voit beaucoup aussi dans notre région, pour ceux qui habitent entre l'Ain, le Rhône. On a de plus en plus de champs de maïs, on a de plus en plus de champs de céréales. On a aussi dans le Beaujolais énormément de vignes. Et avant les vignes, il y avait forcément beaucoup plus de diversité naturelle. Eh bien, la vigne, c'est aussi une forme de monoculture. Et qu'est-ce qui se passe quand on est un petit peu trop sur la monoculture? Eh bien, du coup, les maladies, par exemple, peuvent s'installer beaucoup plus rapidement puisqu'elles ont un seul aliment, elles sont focus sur cet aliment et elles s'installent beaucoup plus rapidement. Donc, on traite et on ne traite pas forcément avec du bio. Donc du coup, on est en permaculture sur une thématique qui favorise et qui tend à favoriser la biodiversité, la diversité des plantes et des animaux. Puisque l'idée de recréer des espaces un petit peu, on appelle souvent ça de la permaculture punk, des espaces un petit peu sauvages, un petit peu libres de pousser comme ils le veulent, bah, ça permet aussi d'accueillir et d'abriter les animaux sauvages, les animaux un peu moins sauvages, mais quand même bien connus de nos balades, comme le chevreuil par exemple, ou certains lapins ou renards qu'on peut encore croiser quand on se promène dans le Beaujolais. Et bien ça, effectivement, l'agriculture conventionnelle avec la monoculture ne permet pas ou ne permet plus cette installation d'espèces animales. En tout cas, elle recule de plus en plus. En permaculture, on minimise le gaspillage, contrairement aussi à cette agriculture conventionnelle qui, au contraire, tend à utiliser énormément de produits complémentaires, de produits d'emballage, de produits de traitement et beaucoup aussi d'énergie. On recycle les déchets et on réduit justement la dépendance aux ressources extérieures, notamment les énergies fossiles. Aujourd'hui, on sait ce que consomme un gros tracteur et toute une exploitation agricole. L'idée, c'est que ça correspond au concept de la monoculture et que ça tend effectivement à ralentir notre survie, entre guillemets, de l'espèce sur le territoire qui nous est donné aujourd'hui, la planète. En pratique, la permaculture, c'est de coopérer. C'est coopérer avec la nature. Donc, vous l'aurez compris, quand on fait de la monoculture ou de l'agriculture conventionnelle, on coopère plutôt avec des énergies extérieures. Là, c'est plutôt d'utiliser la nature pour répondre aux besoins des humains, mais tout en préservant la planète. On parle beaucoup en permaculture de bon sens. Coopérer avec la nature, c'est quelque chose qui a toujours existé. Lutter contre la nature, c'est pas forcément très récent, mais quand même. Et donc, du coup, on se rend compte que ça fonctionne pas très bien. Alors, du coup, le bon sens prend toute sa place dans la permaculture et on va aller coopérer. La permaculture, elle offre des solutions pratiques pour une agriculture durable. Des jardins productifs, pour tous ceux qui s'intéressent un peu au sujet, je vous conseille d'aller jeter un œil, justement, j'en parlais tout à l'heure, à la Source Dorée, vers l'Arbrelle. Vous pouvez aussi regarder de nombreux reportages, comme la ferme du Bec-et-Loin, qui commence à être célèbre, et qui, sur 1000 mètres carrés de jardin, arrive à nourrir facilement une famille des woofers qu'elle accueille tout au long de l'année, et arrive aussi à produire des petits paniers ou des systèmes qui font aujourd'hui qu'on peut acheter dans ces mini-fermes, dans ces micro-fermes, de quoi nourrir sa propre famille. Il y a d'autres exemples dont on parlera un petit peu tout au long de ces différentes émissions que je vais vous proposer toute l'année. Les modes de vie les plus respectueux de la Terre sont souvent retrouvés dans les communautés les plus petites. Et on le voit dans la planète entière, que ces petites communautés s'en sortent parfois beaucoup mieux finalement que les grandes exploitations agricoles. On encourage ainsi la créativité et la vie en groupe. Alors la vie en groupe, ça peut aussi se traduire sans être obligé d'habiter les uns sur les autres. Ça peut aussi se traduire par des concepts de panier partagé, d'AMAP, d'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il y en a une à Villefranche, la MAP Biosol. Et ça nous permet justement de se retrouver, d'échanger. Donc là, on est aussi dans le côté humain que propose la permaculture, puisque parfois, d'aller simplement dans une grande surface se fournir en légumes et ne rencontrer personne, à l'inverse de se retrouver dans une AMAP pendant une ou deux heures à servir les autres, à être au contact du petit producteur ou du producteur tout court, d'aller parfois chez lui faire des journées pédagogiques, de passer du temps avec lui, de passer du temps avec sa famille, avec ses outils de travail, et bien finalement, on est beaucoup plus dans un respect mutuel que peut nous apporter l'humain dans toute son envergure. La permaculture peut être appliquée aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain et elle offre des perspectives prometteuses pour un avenir plus écologique et équilibré.
nothing please me more than you.
Mode perma.
Super, on vient d'écouter Home, Edward Sharp and the Magnetic Zero. Une chanson que j'affectionne tout particulièrement, surtout pour enchaîner sur aujourd'hui les principes et éthiques de la permaculture. Commençons par les éthiques de la permaculture qui sont des fondements qui guident la philosophie et la pratique de la permaculture. Il y en a trois des éthiques et ça fait la troisième fois que je vous en parle depuis ce début de cette émission. Alors la première, eh bien, je vous laisse réfléchir, c'est d'abord prendre soin de la terre. Bah oui, c'est important de préserver et de restaurer la santé de la planète. Cette éthique nous encourage vraiment à travailler en harmonie avec la nature. à minimiser notre impact environnemental et puis aussi à veiller sur la conservation des écosystèmes et de la biodiversité. La deuxième éthique, Care for People, prendre soin des gens, cette éthique met l'accent sur la responsabilité de prendre soin des besoins essentiels des êtres humains. Alors, la nourriture, l'eau, l'abri, l'habitat, la santé et, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la communauté. Elle encourage l'équité, la justice sociale, la création de systèmes qui contribuent au bien-être de toutes les personnes au sens élargi. La troisième éthique, faire cher, partager équitablement les surplus. Cette éthique nous rappelle la nécessité de partager de manière équitable les ressources et au-delà même des ressources, les excédents que nous produisons. Cela implique, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas gaspiller les ressources, d'en réduire aussi la consommation et les consommations inutiles. Et donc, comment on partage équitablement ces ressources ? Eh bien, on peut envisager, comme on le fait déjà dans plein d'écosystèmes humains, de redistribuer les surplus pour le bien commun et aussi pour la régénération de la terre. Refaire du sol, amener son compost quelque part, le mutualiser avec d'autres composts pour finalement le réutiliser dans ses plantes dans le salon, mais aussi dans le jardin partagé de la ville ou des jardins partagés en développement. On est aujourd'hui sur une base de trois éthiques, c'est un triangle et quand on monte un projet, quand on se penche sur l'organisation d'un projet qui soit humain, qui soit entrepreneurial, qui soit de terrain, eh bien c'est important de se dire voilà, est-ce que j'ai bouclé cette boucle ? Est-ce que j'ai respecté ces trois points ? Prendre soin de la terre, prendre soin des gens, partager équitablement les surplus. Est-ce que j'ai respecté ça ? Et si oui, ok, eh bien, je me mets en route. On le retrouve de plus en plus dans les entreprises à mission, ces entreprises qui veulent s'engager, alors déjà dans ces grands concepts d'économie sociale et solidaire, eh bien voilà, ces entreprises qui, dans la dynamique aussi RSE, prennent soin de la terre, donc vont effectivement trier leurs déchets, éviter de jeter les jus des silos dans les rivières directement, créer des systèmes de phytoépuration, prendre soin des gens, et les gens avant tout pour une entreprise, ben, c'est les salariés, c'est les encadrants, et puis partager, donc c'est-à-dire que ben, une entreprise aujourd'hui qui partage ses ressources, c'est pas que avec des actionnaires, ça peut aussi se faire autrement. Dans la permaculture, on parle de principes. Alors, ce n'est pas des principes qui empêchent de bouger, c'est des principes qui guident. Je vous fais un petit résumé de ces principes. Le premier, qui est relativement important, c'est observer et interagir. Il est vraiment important, et on le verra dans nos balades en forêt, il est vraiment important d'observer. Donc parfois d'écouter, de regarder, de toucher, pour comprendre là où on est, pour comprendre l'environnement dans lequel je suis et de comprendre surtout les interactions qu'il y a entre tous les éléments. Quand je coupe des arbres, quand je coupe une forêt, si je fais ça au mois de juin, par exemple, eh bien, je risque de faire tomber des nids d'oiseaux. Et donc, du coup, je ne suis pas du tout en interaction avec les éléments dans lesquels les éléments qui m'entourent. Voilà, donc je vais faire tomber un nid d'oiseaux alors que je veux juste tailler ma haie. Donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, on est sur un deuxième principe qui est de collecter, de stocker l'énergie. On se rend compte qu'on a une perte folle d'énergie aujourd'hui, hein, ça part par toutes les fenêtres, et puis que finalement, on n'arrive pas tant que ça à la renouveler. Il faut savoir que les énergies renouvelables, ça représente aujourd'hui 3% de la consommation, en tout cas des ressources naturelles. Comment on stocke l'énergie du soleil, de l'eau, du vent ? Comment on collecte de manière efficace pour nos besoins d'aujourd'hui ? C'est beaucoup plus facile en général d'allumer une lampe avec un panneau solaire, mais pour nos besoins de demain, comment je peux la stocker quand l'hiver, il n'y a plus de soleil ? Eh bien ça vaut pour tout. Ça vaut pour l'eau du jardin, ça vaut pour énormément de choses. On y reviendra tout au long de nos émissions cette année. Le troisième principe, c'est obtenir un rendement maximal pour un effort minimal. Alors ça peut paraître, et c'est souvent ce qu'on... comment on définit la permaculture, une agriculture de feignant. Bien, pourquoi pas, en tout cas, comment je peux éviter de faire des kilomètres en tracteur pour faire trois fois le tour de ma parcelle, pour aller chercher mon courrier, etc. Eh bien non, je peux fonctionner autrement. Je peux vraiment tout mettre en place pour que mon poulailler soit à côté de ma maison, que mes arbres fruitiers soient au bout d'un chemin où je vais passer régulièrement, et donc j'aurai une cagette, je pourrai ramasser mes pommes à chaque fois que j'ai un prétexte pour y aller. Et donc, du coup, réduire ces efforts qui sont souvent des efforts qui finalement utilisent des ressources qu'on pourrait utiliser autrement. Ensuite, on va parler d'appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Ça, c'est une histoire de système. Une histoire de système et de moyens pour améliorer les systèmes. Ça, on aura un temps vraiment spécifique là-dessus qui sera vraiment, vraiment intéressant, je vous le promets. On va ensuite parler de utiliser et valoriser la diversité. Donc là, on va planter serré, on va planter beaucoup de choses, on va essayer d'amener un maximum de matière, on va essayer d'amener un maximum de diversité qui finalement va protéger les autres plantes, qui finalement va protéger les autres systèmes qu'on a déjà mis en place. Si vous avez un grand terrain, si vous avez plein d'arbres, plein de plantes, et que vous rajoutez une mare, par exemple, eh bien, vous allez attirer forcément des grenouilles, des libellules, et ainsi la pollinisation et tout ce qui s'ensuit sera amélioré. Utiliser des éléments multifonctionnels, eh bien, c'est aussi la possibilité, par exemple, de se dire ben, un jardin, c'est pas qu'en deux dimensions. Ça peut aussi grimper sur les murs, ça peut aussi vivre d'une autre manière. Favoriser les relations bénéfiques. Donc, il y a des associations de plantes, par exemple, qui s'apportent des bénéfices mutuels. Utiliser de petites solutions créatives. On est beaucoup en permaculture sur la low-tech. On recrée des petits systèmes, des petits engrenages, des petits mécanismes qui nous permettent aussi de simplifier certains process. Intégrer plutôt que séparer, et là on va vraiment essayer de faire en sorte que toutes ces interactions là qu'on vient de passer, de survoler rapidement, renforcent la cohérence de notre système. Ensuite, utiliser des solutions en cascade, eh bien, moi je crois très fort qu'on peut résoudre des problèmes parce qu'on obtient des cascades de bénéfices. Quand on a une problématique, on peut faire intervenir une personne, on peut faire intervenir un matériel, on peut faire intervenir un animal, on peut faire intervenir une plante spécifique. Eh bien, tout ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que finalement, on règle un problème. Et ça vaut aussi en permaculture humaine. Utiliser des limites et des contraintes créatives. On parle beaucoup de bordures, on parle beaucoup de haies, on parle beaucoup de ces limites. Comment elles peuvent être autres qu'un muret en béton? Comment on peut éviter de s'enfermer et du coup juste de créer des traits d'union? Si par exemple, avec mes voisins, je veux me séparer visuellement, je ne suis peut-être pas obligé de construire un mur en parpaing. Je peux créer une haie vivante où du coup, à l'intérieur, eh bien, nos deux terrains trouveront un écosystème pour se rencontrer. Peut-être qu'il y aura des oiseaux qui nicheront ici. Peut-être que des hérissons pourront s'abriter avant de traverser le terrain de l'autre voisin. Et puis enfin, le douzième principe, répondre au changement de manière créative. On va en subir des changements, on en subit déjà des changements, des perturbations. Eh bien, à nous de trouver des solutions nouvelles et créatives pour maintenir ce qu'on appelait tout à l'heure la résilience du système. C'est-à-dire comment je peux créer des choses qui finalement eh bien, s'autosuffisent et puis fonctionnent un petit peu en autonomie, fonctionnent un petit peu toutes seules. Voilà. Comme je vous le disais, ces principes servent de guide pour concevoir des systèmes durables, qu'il s'agisse des jardins, des exploitations agricoles. Certains maintenant interviennent en permaculture dans de grandes exploitations agricoles, au niveau du travail du sol par exemple, ou d'autres aspects de la vie quotidienne en harmonie avec la nature et en respectant les ressources disponibles. Je vais vous parler maintenant d'une thématique qu'on aura la chance de faire vivre tout au long des émissions futures et que j'ai appelé l'invité du mois. Alors aujourd'hui, l'invité du mois, c'est une présentation seulement. Et puis peut-être que je vais solliciter un petit peu les auditeurs de cette émission, puisque moi, j'ai pensé à quelques invités, notamment Antoine Talin, qui pourra intervenir lors d'une de nos émissions sur la forêt comestible et les haies fruitières, qui est responsable du centre de formation des alvéoles dans la Drôme, vers Cray. J'ai pensé aussi à Fanny Grange de l'association Être en Herbe de Glaizé, qui travaille pour l'Oasis et avec l'Oasis, que bon nombre d'entre vous connaissent. Et puis j'aimerais, avant d'inviter moi-même d'autres personnes de mon réseau, j'aimerais peut-être que vous puissiez nous indiquer des personnes, des voisins, des amis ou des connaissances, des contacts de la région qui puissent éventuellement me rejoindre sur ce plateau une fois par mois et partager un petit peu une thématique, un sujet en lien avec les saisons et en lien avec ce qu'il aime ou ce qu'elle aime faire avec sa propre permaculture.
Calade.
Ma radio.
Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA.
The Doors, Peace Frog. On n'a pas vraiment encore parlé des grenouilles, mais vu de ma fenêtre et avec la saison du moment, les grenouilles sont contentes d'avoir un petit peu d'eau et de barboter dans les mares. Je vous présente aujourd'hui un bouquin, parce que sur chacune des émissions que j'animerai tout au long de cette année, il y aura la rubrique « Bouquin du mois ». Le bouquin du mois s'appelle « Écolieu vers un nouveau modèle de vie ». C'est écrit par Kevin Simon aux éditions La Plage. Je vais vous lire deux, trois petits passages. Kevin, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai passé deux semaines avec lui dans la Drôme en juin au cours de ma formation certifiante de permaculture. Kevin, eh bien, je vais vous le présenter. Photographe et réalisateur, un peu sauvage sur les bords, c'est pas faux. Amoureux des récits de vie. J'aime marcher pieds nus dans la nature en posant un regard sensible sur le monde, écrit-il. C'est par mes mots et mes photos que je vous raconterai ce récit. Et ça, c'est dans l'intro de son bouquin. Je vais vous lire juste une petite anecdote que beaucoup connaissent. Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement de l'identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre que l'on fabrique la pirogue. C'est un mythe mélanésien de l'archipel de Vanuatu. Et il illustre en avant-propos avec ce mythe son livre, parce qu'il parle de son aventure, celle du permaculture. Il est parti en vélo, a été rejoint par une autre bande de jeunes, et ils se sont amusés à voyager très lentement en vélo depuis déjà 3 ans et d'aller de lieu en lieu et surtout d'écolieu en écolieu, de communauté en habitat partagé. Et ils nous décrivent tout ça dans un bouquin de 230 pages qui a une préface magnifique d'un homme assez exceptionnel, Hervé Covès, qui est un frère franciscain et qui se dit semeur de champignons. Hervé Covès, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup écrit sur les cycles de l'eau, et ça va, autant vous dire, un petit peu plus loin que ce qu'on apprend à l'école. Il écrit, en quelques mots, « Notre énergie à nous, permaculteurs et permacultrices, c'est la vie, et je crois que nos oasis n'attendent que de se relier entre elles pour que la vie revienne dans nos terres arides et brûlées. C'est la vie qui doit circuler, puisque nous croyons que la nature fera émerger les solutions aux problèmes de notre siècle. Comme dans les temps anciens, des jeunes se mettent à parcourir la terre avec les oiseaux pour transporter les graines d'un lieu à l'autre. Il faudrait que ces jeunes sèment tout le long de leur route tout ce qu'elles et ils auront récolté, tout ce qu'elles et ils auront appris, que ces jeunes commencent à créer les corridors que la vie empruntera de plus en plus souvent pour se répandre. Tout l'enjeu est d'apprendre à vivre avec la terre. Elle ne se métamorphosera que si des êtres la parcourent. Voilà pourquoi il nous faut réinventer cet ordre mystérieux des gyrovagues. Apprendre en et entre humains, humaines, à vivre avec la terre. Juste voyager, semer et apprendre à aimer. Cela fait 2000 ans que des voyageurs, voyageuses tentent de le faire. Et certains, certaines y arrivent. C'est ce que vous apprendrez dans ce livre. Et si d'autres pensent que cela ne fonctionne pas, c'est peut-être simplement parce que ces personnes n'ont jamais essayé d'aimer pour de bon. La vie est belle. Je vous encourage à aller chercher ce que c'est les gyrovagues. C'est un vieux terme, très vieux terme, qui est assez explicite. Au sommaire de ce livre, eh bien, il y a plein de chapitres qui sont tous en lien avec les principes et les éthiques que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, on se retrouve avec un chapitre sur l'habitat, on se retrouve avec tout un tas de chapitres qui nous font comprendre, qui nous amènent à découvrir comment, en permaculture, eh bien, on peut partager les ressources, on peut respecter la terre et on peut surtout prendre soin de l'humain. Je me permets juste encore un petit extrait parce que c'est assez magique et j'ai choisi en principe le soin à la nature et à la terre qu'il introduit Kevin par une citation du chef Seattle. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Avec un peu plus d'accent, ça sonnerait presque comme du Renault. Il faut une bonne centaine d'années pour qu'un arbre atteigne une taille adulte. Mais il ne suffit que de quelques minutes pour le couper. Nous voyons tous les jours la facilité de l'homme à détruire ce qui l'entoure, simplement en posant nos regards sur les paysages sans vie, labourés par le temps et par les machines. Durant ce voyage à vélo, mes acolytes et moi traversons des champs par centaines, où la terre est devenue sèche et infertile. Nous partons découvrir des micro-fermes et à la rencontre de ces rêveurs, rêveuses qui travaillent leur résilience alimentaire et font de leur cocon de véritables corridors écologiques. Ces corridors écologiques représentent des connexions entre les réservoirs de biodiversité et permettent aux espèces de se déplacer entre les vastes milieux naturels comme les forêts ou les prairies et rejoindre de plus petits espaces comme des bois, des haies ou des mares et ainsi accomplir leur cycle de vie. Voilà, je vous ai présenté du coup Écolieux vers un nouveau modèle de vie aux éditions La Plage. Et comme pour l'invité du mois, si vous avez des références à me faire, à me partager sur Instagram benjamin.jaïr, ben n'hésitez pas, je lirai, je vous ferai découvrir en tout cas d'autres bouquins. On parlera sans doute la prochaine fois du bouquin Forêt comestible et haies fruitières de Antoine Talin.
Calade.
En mode perma.
Alors maintenant, on va enchaîner sur les balades commentées. Les balades commentées, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une proposition que je voudrais vous faire, à vous, chers auditeurs et auditrices, une proposition pour sortir de la radio, c'est-à-dire d'aller en forêt, vraiment, pour enregistrer les prochaines ou des prochaines émissions. Et pour ça, j'ai pensé à un endroit que j'affectionne vraiment tout particulièrement, qui est la chapelle de Saint-Bonnet et toute la forêt alentour. Et l'idée, ce serait de se rencontrer, de se donner rendez-vous un matin et de marcher dans les bois pendant deux bonnes heures, d'observer, de voir un petit peu ce qui s'y passe et d'y aller surtout trois fois dans l'année pour voir avant l'hiver comment est la forêt, pour voir pendant l'hiver comment est la forêt et pour voir après l'hiver comment est la forêt. Et ces trois temps pourraient être ponctués d'échanges, de petites balades d'observation et puis surtout d'un pique-nique partagé en fin de balade. J'espère que cette idée vous plaît, j'espère qu'on pourra s'y retrouver régulièrement, en tout cas pendant les trois fois à venir. On vous donnera lors de la prochaine émission, le dernier mardi, du mois d'octobre, les dates et les modalités d'inscription. Je vous lis justement juste un petit extrait du livre d'Antoine Talin qui me paraît assez évident. Imiter la forêt. Les plantes ont créé la couche d'ozone qui nous protège en libérant l'oxygène. Elles stockent toute l'énergie solaire qui nous alimente biologiquement, laissant derrière elles l'humus de nos terres nourricières. Et nous ont même légué les énergies fossiles qu'elles ont stockées. À travers les plantes, les forêts régulent le climat et le cycle de l'eau douce. Elles ont préparé la planète depuis des centaines de millions d'années. Quoi de plus logique que de les remettre au centre de nos paysages ? Personne n'arrose la forêt, et pourtant elle pousse. Personne ne la fertilise, et pourtant elle pousse. Non seulement elle pousse, mais elle produit du sol humifère chaque année plus riche. La forêt illustre l'un des principes essentiels de la permaculture, rechercher le moindre effort pour le maximum d'effet. Ça promet de belles observations, en tout cas ça promet de comprendre un petit peu l'écosystème de la forêt dont je cesserai de vous parler puisque j'habite moi-même dans une forêt.
Anajosanu Senegalo Nifataliko Mamanjala Netalima Liheuheu Dembala Weibunjakon Bendancho Tisufu Garage Mama Boy Dinyun Netali Lajen Senegal Oh Fide Dara Dufirer File Gyang Nui Netali Mamso De Fuldara Lajen Senegal Ham Ham Gadana Rera Bakendu Chijirinyo Dara
buñu sagane sunu ciosan
laaj leen Sénégal
ah Sénégalo
laaj leen Sénégal
ah neteli fateli samay mamboy
laaj leen Sénégal
ah Sénégalo
laaj leen Sénégal
ah samal ma ciosan no mamboy war nañu jang ñun jaar jaaru rew mi a xam sa rew bëgg sa rew la xam xam war nañu gëssulen waaw sunu demba gëssulen laaj leen Sénégal oh liri sa ciosan waru loko di sagane dang ko wara topato ngir xalé yi ñew suba jangaleen goné yi ñom ñomom suba
laaj leen Sénégal
ah Sénégalo
laaj leen Sénégal
ah neteli fateli samay mamboy
laaj leen Sénégal
ah Sénégalo
laaj leen Sénégal
ah famal ma ciosan ñom mamboy Mufeki soufsi, mambul tay way Diñu xamal sa xam xam bi Ñun soxla nañu la
Laaj leen Sénégal
Ah, Sénégalo
Laaj leen Sénégal
Nañ ko sammu Sénégalo
Laaj leen Sénégal
Ah, Sénégalo
Docteur Las, Sénégal, un ami très cher qui vit en musique depuis très longtemps déjà et que l'on a souvent accueilli à Villefranche puisqu'il y a vécu quelques années. Docteur Las, que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes et surtout et souvent sur Radio Calade.
Calade,
ma radio.
Je vais vous parler de Permacabadio, c'est une association que j'ai créée avec un groupe d'amis en 2018, mais qui était la suite logique de l'association Il était une fois une rencontre, créée en 2000 à Villefranche-sur-Saône et qui avait pour objectif le soutien au projet des villageois de Cabadio, un petit village de Casamance au Sénégal. Cette association est devenue Permacabadio en 2018 suite à ces différents stages de permaculture que l'on a mis en place dans ce village et dans un lieu, une petite ferme, un lieu de vie qui accueille aujourd'hui des jeunes en échec scolaire, des jeunes décrocheurs scolaires et ou des jeunes qui ont tenté d'arriver jusque chez nous en Europe, en pirogue ou par la voie terrestre à travers le Maroc, l'Algérie, la Libye, le Mali, et qui finalement n'ont pas pu arriver jusqu'au bout de leurs rêves, de leurs projets. Et ces jeunes-là, de retour chez eux, ne trouvent plus beaucoup de place car ils doivent de l'argent un petit peu à tout le monde, à toute la famille, et donc se retrouvent finalement coincés. Et c'est là que notre ferme, notre lieu Permacabadio au Sénégal, leur vient en aide, les accueille, les reconstruit, les nourrit et prend soin d'eux tout en leur apprenant justement la permaculture. Chaque année, on les retrouve. Le 11, c'est des jeunes du monde entier. Cette année, ça va se passer pendant les vacances de la Toussaint, du 23 octobre au 3 novembre, avec des jeunes d'Italie, de Grèce, de France et même du Bénin. Et donc, tous ces jeunes se retrouvent chaque année à partager 2 semaines de formation en permaculture le matin, avec des ateliers théoriques et des ateliers pratiques que chacun anime et co-anime. Et puis l'après-midi, d'où le jeu de mots perma et culture, l'après-midi, on va un petit peu plus travailler sur l'écosystème humain dans lequel on se trouve, puisque tout le monde ne va pas chaque année en Afrique. Et donc, pour une fois qu'on y est et qu'on s'y trouve, eh bien, il est temps d'aller découvrir les forgerons, d'aller dans les forêts sacrées, d'aller rencontrer les chefs de village, les communautés, les écoles, etc. Voilà. Chaque émission en mode perma terminera par l'actualité de ce lieu, terminera par peut-être même parfois des échanges avec les jeunes de ce lieu, si les connexions Internet le permettent, pour vous amener à élargir un petit peu ce réseau de la permaculture locale, caladoise et du Beaujolais, et en quelques minutes, survoler un petit peu le continent africain et les initiatives. En tout cas, toutes ces anecdotes ou aventures qu'on peut éventuellement découvrir sur place. Et notamment, là, aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler donc de cette formation qui aura lieu en octobre, pour vous dire que chaque personne qui part faire cette formation depuis l'Europe, eh bien, va parrainer un jeune dans cette ferme, dans ce lieu de vie, Bindoula, qui veut dire la place de la rencontre en langage mandingue. Et donc, chaque parrainage va permettre au groupe d'être doublé. Donc, cette année, il y aura 7 ou 8 personnes qui partent d'Europe. Donc, on va se retrouver entre 16 et 18 personnes environ à constituer l'effectif de cette formation. Et ça, c'est déjà une grande réussite et d'une grande aide sur le plan social et humain, puisque tous ces jeunes qui apprennent la permaculture avec d'autres, eh bien, peuvent ensuite solliciter leur famille, peuvent ensuite solliciter le village pour obtenir des terres. Et c'est l'exemple de Django et Tierno que j'ai eu hier au téléphone pour préparer un petit peu leur projet, qui est de planter sur un terrain familial qu'ils ont obtenu parce que justement ils ont aujourd'hui la capacité de dire qu'ils savent planter, qu'ils savent récolter, qu'ils savent amender le sol, arroser, parce qu'ils ont suivi déjà plusieurs de ces formations. Eh bien, ils vont se lancer dans la production de bananes et de papayes. Voilà. Donc là, c'était une bonne nouvelle. Je trouve ça, moi, toujours tellement riche de savoir que des jeunes qui ont vraiment un parcours scolaire parfois difficile, qui du coup ne trouvent pas de travail, parce que même aujourd'hui, avec des diplômes dans les pays africains, la seule solution, c'est de quitter le territoire pour essayer de travailler à la hauteur de ce qu'on a appris ou acquis comme compétences. Eh bien là, c'est vraiment une prise en main qui vraiment est parlante. Et donc, leur demande aujourd'hui, ça va être de trouver les installations techniques pour pouvoir pallier au manque d'eau toute une partie de l'année, puisque dans le Sénégal et en Casamance, on a 8 mois de sécheresse pour 4 mois de pluie. Et en général, de manière consécutive, donc on sèche assez vite. Alors du coup, l'idée, c'est de trouver, de monter des projets pour trouver un puits, une pompe solaire, puisque le soleil ne manque pas. Et donc du coup, de les encourager à mettre en place ce projet. Donc on sera sur place en octobre pour déjà construire avec eux le design de ce projet. Ça, le mot design, on en reparlera dans les émissions suivantes. Et puis les accompagner grâce à 2 jeunes services civiques qu'embauche l'association Perma Cabadio et qui pourront avec eux, les temps d'après-midi, eh bien, travailler sur le montage de projets pour obtenir des subventions, des fonds privés, des mécénats. Et donc là, dans le cas de Tierno et de Paboy, eh bien, l'idée, ça va être de trouver une pompe, un panneau solaire pour connecter tout ça avec le puits et pouvoir arroser leur plantation pendant toute la saison sèche, voire même de créer aussi un business plan, de faire une étude de marché sur la commercialisation de leurs produits. Voilà, c'est ça l'association Perma Cabadio. Chaque émission, je pourrais vous en dire un petit peu plus. Vous pourrez aussi me poser des questions et puis peut-être même vous joindre à nous. Il reste une place sur le séjour de la Toussaint, sachez-le. N'hésitez pas en tout cas à me solliciter si vous voulez plus d'informations. Voilà pour ce qui est de cette première émission. J'ai été vraiment ravi d'être aux côtés de Mathieu pour vous la présenter. J'espère vous avoir tout dit, surtout vous avoir donné envie de continuer avec des thématiques qui seront des thématiques techniques sur la permaculture, autour du zonage, autour de la plantation des arbres, de création d'un sol vivant, de comment structurer son jardin, et puis surtout autour de ces thématiques et de ces temps de balade en forêt tout autour du Beaujolais. Merci et à bientôt.
Calade
100.9
en mode perma. Votre émission mensuelle consacrée à la permaculture.
En réécoute sur radio-calade.fr.